plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Perry.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Pourquoi vous avez fait tout ça?
Parce que j'avais envie de le faire.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada.
L'essentiel, c'est que la vertu triomphe.
La Bébelle Époque.
Je trouve que le métier d'acteur, c'est très joli. Et si on joue son personnage à soi tout le temps, c'est plus drôle. Ce qui est bien, c'est d'être justement un matin, je sais pas, un boucher, le lendemain, être un directeur d'usine. Et le danger du cinéma, c'est ça, c'est que les producteurs ont tendance à vouloir vous enfermer dans un film. Quand on a du succès dans un genre, on veut toujours vous refasser celui-là. C'est pour ça que je lutte un peu contre ça et je vais en revenir à d'autres rôles. Et on a toujours tendance à dire un acteur fait du Belmondo ou du Gabin, je ne sais pas, mais il faut essayer de ne pas le faire, justement. Mon ambition, c'est pas de devenir Belmondo jouant du Belmondo, ça m'amuse pas du tout.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo, d'À bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Oui, pas tout dit, Delmas.
C'est en juillet 1950 que le jeune apprenti acteur Jean-Paul Belmondo, tout juste âgé de 17 ans, apparaît pour la première fois en public. Même pas sur une scène de théâtre, mais au cours d'une tournée dans les hôpitaux parisiens. Étriqué dans le costume du prince charmant de La Belle au bois dormant d'après Charles Perrault, il est toutefois convaincu d'être ici, à sa place, auprès des autres comédiens et face au public. Premier rôle et premier costume. D'une certaine façon, on peut dire que Belmondo ne quittera plus jamais l'habit de scène, tant il semble apprécier ses transformations vestimentaires. À chaque rôle, sa caractérisation, c'est la règle du jeu. Mais Belmondo y ajoute manifestement un plaisir de petit garçon, toujours prêt à se déguiser, qu'il s'agisse d'incarner le brigand Cartouche, un prêtre, un voleur de La Belle Époque, l'escroc Stavisky, un soldat de la débâcle ou un baroudeur en blouson de cuir. Le tout complété par une ribambelle de doulos, feutres, panama, casquette, bicorne, casque vissé sur sa tête comme autant d'invitations à se rallier à son panache de comédie. En route pour le pays des mille et un costumes de Belmondo et costard de Bébel, ou plutôt, comme il disait lui...
Allons-y, allons-y.
Monsieur D'Artagnan, est-ce que vous ne cherchez pas à prendre du service à Paris?
Du service à Paris?
Sans doute avez-vous des amis.
J'en ai trois mousquetaires.
Vous ne pouvez pas entrer aux mousquetaires, c'est trop difficile. Est-ce que vous n'avez pas un peu d'ambition?
Ça se pourrait.
Est-ce qu'un service très brillant, très relevé, le service de son éminence, par exemple?
Ah, je ne peux pas, madame. Mes trois amis sont brouillés avec le cardinal et moi-même après
je
ce combat.
Je comprends, oui.
Oh, ce n'est pas que je dédaigne les services de son éminence, bien au contraire. J'ai trop d'admiration pour monsieur le cardinal. Mais j'étais en train de vous dire que si je trouvais un peu d'indulgence, eh bien je m'efforcerais d'être ni trop indiscret, ni trop timide.
Vous faites une déclaration à brûle-pourpoint. L'attaque est vive.
Eh bien, défendez-vous.
Vous êtes trop dangereux, monsieur le chevalier. Une garnison si vigoureusement sommée de se rendre n'a qu'une ressource.
Laquelle?
Celle de faire une sortie.
Madame, vous me quittez déjà, vous êtes fâchée.
Je ne suis pas fâchée, mais je m'enferme. Adieu, monsieur le chevalier.
Le Belmondo que l'on vient d'entendre a déjà tourné dans À bout de souffle quand il apparaît le vendredi 25 décembre 1959 dans une adaptation par Claude Barma des Trois Mousquetaires, diffusée en direct à la télévision. Il y joue tout naturellement D'Artagnan aux côtés de Robert Hirsch et Michel Galabru, entre autres. Une première télévisuelle qui, comme par hasard, se déroule en costume et annonce d'autres rôles de cap et d'épée sur grand écran cette fois. Le premier cinéaste qui lui fera endosser de tels habits, c'est Philippe de Broca pour son film Cartouche, et qui saura, tout au long de leurs différentes collaborations, utiliser le goût de Belmondo pour le travestissement. Comme dans cet autre film en commun, L'Incorrigible, sorti en 1975, dans lequel l'acteur, fasciné depuis son enfance par les clowns, incarne un escroc aux mille visages.
Quand on fait un film avec Belmondo, comment ça se passe? Est-ce que... On décide de faire un film avec lui comme ça, ou on part d'une histoire qui aboutit à Belmondo?
Bah, ça dépend. En ce qui concerne ce film, c'était le contraire. C'était un peu... Jean-Paul Belmondo était, avait tout d'un coup un trou, une liberté, puis il m'a fait savoir qu'on pourrait faire un film ensemble. Et avec Michel Audiard, on lui a plutôt fait une commande. Là, il avait envie de jouer dans un seul film des tas de personnages. On a écrit un film en fonction de ça, c'est-à-dire d'un clown, d'un pitre, qui n'arriverait pas à supporter son visage et qui se déguise toute la journée. C'était écrit sur commande pour lui. On allait le trouver avec Michel Audiard de temps en temps pour lui dire « Voilà, peut-être on penserait à un personnage, mais quel genre de truc t'aimerais jouer ?»« Bah ça, peut-être un type qui aurait des moustaches, puis qui s'enlèverait, etc. » Et il a été un peu co-auteur dans le film.
Alors le titre, Incorrigible,
oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire un monsieur qui voudrait bien se corriger et qui n'y arrive pas, ou un monsieur qu'on voudrait bien corriger et qui n'arrive pas à se corriger, c'est-à-dire à rentrer dans la droite ligne de quelque chose qui serait peut-être un peu ennuyeux. La vie est drôle à condition d'être dans la fantaisie et toujours en étant entouré de gens qui vous disent « Mais mon petit garçon, il ne faut pas faire ça », puis ensuite « Mais jeune homme, faites attention », et puis ensuite « Mais tu n'as pas le droit », et ensuite « À ton âge, comment peux-tu ?» C'est toujours ce qu'on entend, non? Et les gens qui sont drôles sont précisément les gens qui n'écoutent pas ce genre de choses.
Pourquoi ne pas le dire dès à présent? Certains, dans le public comme dans la critique, n'apprécient guère ce penchant de Belmondo pour les rôles en costume. C'est le cas du truculent critique Jean-Louis Bory, qui en 1971, au micro du Masque et la Plume, ne mâche pas ses mots pour évoquer Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, qui se déroule au beau milieu de la Révolution française.
Mais la façon dont il les traite, c'est pas la façon dont il les traite qui me gêne, c'est que vous avez par exemple Samy Frey, est merveilleux dans le personnage de Jeanne Marquis. Là où, à mon avis, le film est un peu trahi par son interprète, dans le sens que j'indique, qui diminue l'intérêt du film, c'est par exemple Belmondo. Belmondo, manifestement, n'a rien cherché pour donner une espèce de pesanteur à son personnage. Il se contente de cascader.
Il n'est pas
Gérard. Parce qu'il n'y a pas de.
Oui.
Il n'y a pas
et
de.
Alors, si, il pourrait. Si.
Écoutez, je crois
il que. Pourrait, là, il pourrait ajouter quelque chose au personnage qu'il ne fait pas. Ce qui fait que lorsque Belmondo sort l'écran, on voit un garçon sympathique, rayonnant, amusant et drôle. Il n'y a rien derrière. Alors que justement, le sujet de Rapneau et la façon. Cette façon même qu'il a de concevoir le cinéma comme. Dire des choses graves par des moyens légers, ça demande beaucoup de la part des acteurs. Et à mon avis, là, Belmondo l'a trahi. Jobert, moins. Ça m'y ferait pas du tout.
Tu trouves que j'ai changé?
Retourne-toi. J'ai tout dépeigné. Qu'est-ce que c'est?
Rien. Là, on laisse.
Donne. Qui c'est?
Oh, la fille d'un armateur. Elle, c'est Margaret. Faut que je t'explique.
Non, j'ai compris, je t'en veux pas. Un homme peut pas rester tout seul. Et j'étais loin.
Et puis tu n'étais pas toute seule non plus.
D'ailleurs, elle m'a tout l'air d'une gourde.
Tu sais, cette fille, cette femme, enfin, cette jeune fille, parce qu'elle n'est pas mariée, elle voulait...
Se marier.
Oui, justement. Mais elle ne pouvait pas épouser un homme déjà marié.
Ça, c'est sûr.
Ah, t'es d'accord?
Arrête de bouger!
Mais tout bouge, mon moineau, tout. Regarde leur révolution, ça bouge. Par exemple, un couple. Au début, il est heureux. Après, il se dispute. Maintenant, ça s'arrange. Il y a le divorce.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est cette nouvelle loi, tu sais. On va à la mairie, on signe un papier et c'est fini. Il n'y a plus de mariage.
C'est idiot.
Aïe.
T'as un cheveu blanc.
Je disais donc.
Allez, t'es beau maintenant, embrasse-moi.
Oui, bon, alors, Margaret...
Elle veut t'épouser, c'est ça?
Eh ben, oui, exactement, t'as deviné. Alors, du coup, j'avais pensé que toi et moi, on aurait pu... Enfin, bref, on pourrait divorcer.
C'est pour ça que t'es revenu?
Oui.
Et c'est maintenant que tu le dis?
Quand voulais-tu?
Parce que cette nuit, pas question de divorce. Tu penses à autre chose?
Oui.
Ah, ne me touche pas, tu me dégoûtes!
Mais décidément, les cinéastes, eux, sont au diapason de l'acteur et ils adhèrent sans réserve à son goût de la transformation. Au-delà même, parfois, de ce que l'acteur envisage. Faire le clown, d'accord. Mais revêtir la soutane, c'est autre chose. Une vraie soutane, hein, longue et noire, avec ses rituels 33 boutons en hommage à l'âge de la mort du Christ. Alors quand en 1960, Jean-Pierre Melville propose à Belmondo le rôle principal de Léon Morin, prêtre, il lui faut user de toute sa persuasion. Pas facile de convaincre la nouvelle icône de la séduction cinématographique, tendance à bout de souffle, de jouer ce curé capable de faire vaciller la foi communiste d'une jeune veuve de guerre dans la France occupée. Mais, au fond, à quoi succombe-t-elle? Au charme indéniable de l'abbé Morin Belmondo ou à l'état de grâce qu'il suscite? peu importe, puisque ce qui nous occupe ici, c'est bel et bien la question du costume vu par Melville, puis par son acteur.
J'ai choisi Jean-Paul Belmondo avant qu'il soit une vedette consacrée. À l'époque, il était en train de tourner À bout de souffle. Et la première fois que j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, c'était à l'aérodrome d'Orly. Nous sommes croisés dans un escalier, nous sommes serrés la main. Et je me suis dit, tiens, il a la gueule qu'il faudrait pour faire Léon Morin. Je ne savais pas encore du tout quel genre de comédien de cinéma c'était. Je dois dire qu'une fois que À bout de souffle est sorti, on savait tous à quoi s'en tenir sur la valeur artistique du professionnel de Jean-Paul. Il y avait très longtemps que j'avais envie de tourner Léon Morin, plus de 8 ans. Et tous les ans, Béatrix Beck, l'auteur, me téléphonait en me disant « Vous n'avez toujours pas trouvé les comédiens que vous voulez ?» Je disais non. Et coup sur coup, j'ai eu envie de prendre Emmanuel Riva pour faire le rôle de Barney. Puis, quand j'ai connu Jean-Paul, la question ne se posait même pas. C'était Jean-Paul Belmondo qu'il fallait prendre pour faire Léon Morin et personne d'autre.
Pourquoi il n'existe pas en France ?
Absolument
pas. À l'étranger, peut-être même, d'autres acteurs que Belmondo ?
Aux États-Unis, incontestablement, si. Je crois que Jean-Paul, tu ne m'en veux pas si je dis qu'il y a aux États-Unis des comédiens remarquables et de ta valeur. Je dois dire qu'en France, il est très difficile de trouver un homme entre 25 et 30 ans qui soit à la fois totalement viril, qui puisse jouer le petit métallo de chez Renault, le prêtre intellectuel, mais montagnard, d'origine paysanne, de Léon Morin.
Parlons de Léon Morin, prêtre. Ce personnage, effectivement, je pense que la majorité des gens ne vous voient pas dans le rôle d'un prêtre. Vous non plus, peut-être.
Non, au départ, je veux dire, justement, quand Jean-Pierre Melville est venu à Rome proposer Léon Morin, prêtre, j'étais un peu affolé à l'idée de mettre une soutane et de représenter un prêtre, parce que vraiment, je ne me voyais pas là-dedans. Puis Jean-Pierre m'a donné des arguments qui m'ont convaincu et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Au contraire, j'en suis enchanté.
Avez-vous la sensation d'avoir appris quelque chose en jouant ce rôle très différent de ceux dans lesquels on vous voit habituellement?
Oui, je crois que justement c'est dans des rôles comme ça qu'on peut progresser en tant qu'acteur, en jouant un rôle qui n'était pas a priori au départ, enfin, je veux dire dans ma nature. Et vraiment oui. J'ai appris là et j'ai trouvé des choses que je ne savais pas qui étaient en moi. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça.
Mais... Non, mais au contraire, et cela vous a fait plaisir. En
fait. Et ça a fait très plaisir, je comprends. Ça m'a ouvert une voie, je crois.
On m'a toujours pris pour un tendre, jusque vers ma 15e année. Il est des tournants qu'il faut prendre. À 16 ans, j'étais déchaîné. Ma pauvre maman, je le confesse, on avait le cœur déchiré. Mais sans pitié pour sa détresse, j'étais le plus dur de tout le quartier. C'est pas qu'on cherche les mauvais coups, la vie ça se brûle par les deux bouts. J'aurais dû croire ma pauvre mère qui me traitait de bon à rien. Être bon c'est pleurer misère. On ne m'y reprendra pas demain. C'est pas qu'on cherche les mauvais coups, la vie ça se brûle par les deux bouts. Sans quoi on se mouille pour rien du tout.
Lui aussi aimait la castagne et la cascade. C'était Eddie Constantine et sa chanson « Les mauvais coups ».
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada. La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo, en 9 épisodes par Laurent Delmas.
En règle générale, Jean-Paul Belmondo ne pratique guère l'auto-analyse et autres introspections sur le métier de comédien, son paradoxe et ses contradictions. Il laisse ce soin à d'autres. Lui, ce qu'il aime, c'est le jeu du chat et de la souris avec le spectateur, condition sine qua non du spectacle et, le cas échéant, du suspense. D'où, par exemple, cette incroyable docilité dont il fit sans cesse preuve avec les multiples cinéastes qui l'ont dirigé et quelle que soit leur méthode de travail. Les confidences sont donc rares. On apprécie d'autant plus, et à sa juste mesure, le regard que Belmondo porte en 1965 sur les personnages aux multiples facettes qu'il incarne et sur cette fameuse identification du côté des spectateurs.
C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la vie de Pierrot le Fou, le fameux Pierre Loutrel, ça n'a rien à voir.
Le côté non-conformiste du personnage doit vous plaire?
Ah oui.
Parce que vous êtes un peu comme cela, sans être pour autant un gangster.
Non, je vais pas jusque-là.
Pourtant, lorsque l'on interprète un rôle, on prétend qu'il y a une nécessité d'identification, au moins partielle, de l'individu au personnage qu'il interprète.
Non, mais ça, je crois pas. Ça, je crois que c'est des légendes, ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai joué Léon Morin, prêtre. Puis, je peux très bien jouer un gangster. Et puis, demain, si je joue un drogué ou un fédéral, je crois pas que j'irai jusqu'à ce point-là pour être bien dans le rôle. Il faut de l'imagination, c'est mieux.
Mais vous n'avez rien d'ecclésiastique, c'est le moins que l'on puisse dire.
Non, je portais pas spécialement la soutane, mais... Il faut les observer. Je crois que c'est un peu ça le métier d'acteur, c'est d'observer les gens et après d'arriver à faire ce qu'ils font. Mais je crois que justement il y a eu un... Enfin, il y a certains acteurs peut-être qui le font, mais toute une légende où il faut vivre ce rôle jusqu'à devenir ça. Et des fois on lit, j'ai joué un fou et j'ai fini le film, j'étais fou. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas du tout mon style.
Pour avoir fait endosser à Jean Dujardin le costume d'OSS 117 notamment, le cinéaste Michel Hazanavicius sait de quoi il parle quand il évoque le goût de Belmondo pour les costumes. Une fois encore, c'est un retour à l'enfance, un penchant pour le « il était une fois » des contes de fées et le « on dirait que tu serais » des cours de récréation. Un retour aux sources également pour tout acteur qui se respecte vers la Commedia dell'arte et son arlequin chamarré.
J'imagine extrêmement bien Belmondo avec une carriole sillonnant les routes de France et s'arrêtant dans des tavernes et ayant des aventures avec des soubrettes. Ça semble correspondre à son personnage. Il y a un côté bonhomme, joyeux. C'est joueur hein, de se travestir, de se déguiser, de mettre des... Quand il joue à la tardée, dans le magnifique et tout ça, faire des grimaces, faire des trucs... Ouais, il aime ça. Il joue, quoi. Après, c'est quelqu'un qui a quand même une grande aisance dans le jeu. Et on sent qu'il va un peu dans... Il aime aller dans... Comment dire ? Au plus loin dans le jeu... Encore une fois, c'est pas dans le réalisme quotidien que Belmondo exprime tout son talent au mieux, quoi.
Quand en 1985, Alexandre Arcadi propose à Belmondo d'incarner le rôle principal de son nouveau film, Hold Up, il sait déjà combien l'acteur est sensible à l'univers du cirque et des clowns qu'il côtoie depuis l'enfance. Il passera donc la majeure partie du film dans les habits d'un clown, avec petit chapeau ridicule et fleurs arroseuses à la boutonnière, dans la plus pure tradition de ce personnage au grotesque assumé et revendiqué. Et comme par hasard, il s'appelle Grimm, comme les frères, auteurs des contes pour enfants, mais aussi comme la troisième personne du verbe « se grimer ». En clown, en l'occurrence, puisque c'est sous cet habit que Belmondo dévalise avec panache une importante banque canadienne à Montréal. Coécrit par le cinéaste Daniel Saint-Amont et Francis Weber, d'après le roman « La saga des Locke-Du » de Jack Cronley, le scénario utilise en permanence la personnalité du clown et sa parfaite incongruité dans le contexte a priori dramatique d'une prise d'otage et d'un hold-up. Mais avec Belmondo, c'est toujours le clown qui a le dernier mot.
Et maintenant, une question. Qu'est-ce qui est rond, comme un ballon, et qui explose quand on tire dedans? Une tête. Vous avez déjà vu exploser une tête, monsieur le directeur?
Eh bien, je vais vous montrer!
Je crois que monsieur... Essayez de vous dire que je vais vous flinguer tous les uns après les autres si vous ne me prenez pas au sérieux. Et il a raison.
Gardez votre calme. Qu'est-ce que vous attendez de nous?
Qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que j'attends de vous? Une ronde.
Une quoi?
On va faire une ronde. Allez debout. J'ai dit tout le monde debout!
C'est un fou! On a fait un fou!
Je ne suis pas fou!
Personne ne me traite de fou!
Est-ce que j'ai compris?
Hein?
Oh. Je suis fou, moi ? Ta moustache. Répondez, je suis fou.
Non.
Ah, j'aime mieux ça. Bon, alors maintenant, tout le monde au centre, on se tient par les épaules, on va faire une ronde. Allez, mon petit Francky, allez, monsieur le directeur. Madame, oui, vous êtes enceinte, vous êtes dispensée donc. Allez, on se tient bien par les épaules, voilà, allez. Maintenant, on va chanter une chanson.
À la Clairefontaine.
Très bien. Attention, 1, 2, 3.
À la Clairefontaine.
Ancien patron de la Cinémathèque française et actuel directeur d'Unifrance, Serge Toubiana confirme et prolonge la vision d'un Belmondo en chef d'une fête permanente, menant de film en film une sorte de sarabande destinée à mettre les spectateurs en joie.
J'ai jamais vu Belmondo au théâtre.
Moi non.
Et pourtant, et quand vous voyez ça oui. Non pas sa filmographie, mais sa...
Oui, je ne
sais pas comment on dit pour le théâtre, mais ouais. C'est très impressionnant ce qu'il a fait au théâtre. Et donc là,
il vient de là, hein, d'ailleurs.
Il vient de là, bien sûr. Il s'en donne à cœur joie. Il a joué Cyrano, il a joué le répertoire, etc. Donc oui, moi je pense qu'il y a cette idée de chez lui de que tout est une fête, quoi. Jouer, c'est une fête, quoi. Et il faut que tout ça entre comme une sarabande, quoi. Il en est l'animateur, le guignolo, le je sais pas comment appeler ça, mais. Je pense que plus on s'amuse, mieux c'est pour le film ou la pièce dans laquelle il est embarqué, quoi. Non, je crois qu'il y a quelque chose de très joyeux dans sa façon de concevoir le... Alors que chez Delon, c'est plus sombre. C'est plus sombre, quoi. Et que Melville a parfaitement compris dans Le Samouraï. J'aime bien cette anecdote, c'est que quand Melville est venu apporter le scénario du Samouraï à Delon... Delon l'a lu devant lui et il a vu qu'il ne parlait pas pendant les 20 premières minutes. Où, d'ailleurs, il ne parle pas beaucoup dans le
beaucoup
film.
De toute façon.
Et c'est ça qu'il a dit, je fais. Il a dit à Melville, je fais le film parce que je trouve ça génial. Quoi. Ouais. Ça prouve à quel point ces acteurs, ces grands acteurs, connaissent le cinéma, l'aiment, savent là où ils peuvent trouver leur place et apporter, inventer, innover, enrichir. L'un en faisant, comme vous disiez, en faisant trop,
ouais.
Des tonnes, et l'autre en faisant le moins.
Le moins possible.
En se rétractant, quoi. Ouais. Sachant que la caméra de Melville ou celle de tous les autres cinéastes, les grands cinéastes qui ont filmé si bien Belmondo, fera le travail d'enregistrer cette façon d'être là dans le plan, quoi.
Je sors avec un otage, je veux parlementer.
Ok, Claude, on va parler. Ne fais pas de bêtises, d'accord ? Bien, regarde.
Ta moustache. Allez.
Tu peux sortir.
Ton nez. Je peux pas respirer, cette cochonnerie. Écoutez-moi bien. J'ai 32 otages là-dedans. Et je suis prêt à tout. Arrête, fusil sur les toits. Faut les enlever.
Baissez les fusils, les gars.
Guns down!
Se travestir sans cesse, donc, pour tromper son monde, pour épater la galerie, pour ne pas vieillir aussi. Dans Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch, Belmondo incarne Sam, un ancien doux rêveur qui se voyait en trapéziste, mais dirige ses affaires d'une main de fer. L'une des scènes clés du film le voit se transformer en pompiste de banlieue pour tenter de brouiller une fois de plus les pistes. Il manifeste que Belmondo prend un immense plaisir à se travestir ainsi, dos voûté et voix cassée compris. Aucun spectateur n'est dupe, évidemment, mais le plaisir du jeu est là. Plus les ficelles sont grosses, plus ça passe. Oui. Décidément, on est bien au cirque, et c'est ce qui plaît à Belmondo.
Mais comment vous avez fait pour atterrir dans un coin pareil ?
Ben, je faisais un contrôle sur le quartier, Sarcelles Nord, sur ce secteur, quoi, et puis j'ai voulu faire de l'essence, et vous allez voir, c'est assez troublant. Je suis tombé vraiment sur le pompiste, C'est la copie conforme de votre père.
Ouais, bah on a tous un sosie, hein.
Oui, c'est vrai, il paraît. Enfin, vous allez voir, c'est pas pareil. Votre père était beaucoup plus...
Voilà, voilà. Oh, ça, c'est de la bagnole, chapeau. Aïe, aïe, tiens, ça est faire des bagnoles.
Bah, celle-là, elle date de 57-58.
Pareil.
C'était la voiture de Ray Sugar Robinson,
ah,
le boxeur.
C'est étonnant.
Il lui ressemble quand même, c'est fou. C'est fou.
Non, il lui ressemble pas, mais non, c'est... C'est une allure, simplement.
Il est plus vieux, quoi, mais...
Ah oui.
Mais s'il avait eu le temps, il aurait peut-être vieilli comme ça.
On vous a jamais dit que vous ressembliez à quelqu'un qui s'appelle... Enfin, qui s'appelait Sam Lyon.
Comment tu dis?
Sam Lyon.
Tant voir, dans quelle catégorie vous que c'est, celui-là?
Point lourd. Je ne sais pas, c'était un homme d'affaires.
Oh! Alors, les hommes d'affaires, mon petit gars, moi. Tiens, c'est plein, voilà, fini. Ah oui. Eh, bah, dis donc, ça fait 400 tours. Ah bah oui, normal, hein. Ça suce. Oula, 500, mais il faut qu'il aille prendre de la monnaie là-bas.
Fais que... rien, laissez tomber. Ça va.
Oh, merci, mon frère. Vas-y, en toi, t'es comme Robinson, généreux. Hein.
Donnez un petit coup sur le pare-brise.
Oh, bah, dis donc, on va me gêner. Pour ce prix-là, t'as raison. Eh. Voilà. Ouais, une seconde. Non, mais c'est vrai, quoi. On peut pas être au four et au moulin.
Cédric Labiche, avec son film Peut-être, sorti en 1999, est l'un des derniers cinéastes à avoir fait tourner Jean-Paul Belmondo. Affublé d'une crinière de vieux lion fatigué, l'acteur joue le personnage de Akko, qui pour les besoins de ce film de science-fiction, incarne dans le futur le fils de Romain Duris, tandis que Géraldine Pellas joue à la fois sa mère et sa petite-fille. Vous êtes perdu dans ces parentés et temporalités étranges, nous aussi, et c'est bien normal. Le scénario, élaboré par Cédric Clapiche, Alexis Galmo et Santiago Amigorena, joue avec le spectateur et finit par lui faire admettre que Belmondo peut être le fils de Romain Duris. Belmondo, vieillissant dans la vie, accentue sur l'écran sa fatigue physique au point d'avoir du mal à faire de la corde raide, lui, le cascadeur de toujours. C'est assurément le travestissement ultime. Surjouer l'âge et prouver une fois de plus que la comédie des masques l'emporte sur le reste. Et aux premières loges de ce spectacle permanent, il y avait évidemment Cédric Clapiche.
À partir du moment où on a su que c'était Jean-Paul Belmondo, avec le costumier, avec le maquilleur, qui étaient des gens qui venaient de la mode, on voulait que ce soit spécial. C'est-à-dire que le but du film, c'était d'inventer un futur impossible. Et donc, d'où l'idée de Paris sous le sable, même malgré le fait que maintenant, ça paraît un peu moins impossible que dans les années 2000. Et pareil avec les costumes, on se disait, voilà, ce qu'on voudrait, c'est inventer quelque chose qui est un futur, qui n'est pas le futur de Star Trek et de Star Wars, quoi. Donc... On s'est dit, voilà, qu'est-ce que ça serait un monde où, justement, donc le désert a avancé, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus tout ça. Et donc c'est un monde où on récupère des vêtements, on recoud des trucs. Et donc, on avait inventé toute une esthétique qui était vraiment liée à la récup. Et c'était vrai à la fois pour la décoration et pour les costumes. Et du coup, Belmondo, il s'était prêté à ça. Il y a un côté où, moi, je me rappelle que le costume était lié à des costumes réels d'Afghans. Ça, c'était un peu inspiré par des gens d'Afghanistan. Et puis les cheveux, c'était justement pour lui donner un look qu'il n'avait jamais eu, pratiquement. Et puis ça lui allait bien, c'est-à-dire qu'on lui a fait essayer les perruques, et c'était étonnant de voir à quel point ça lui fabriquait une tête. Pas trop, j'avais peur du côté Baba Cool, moi. Et ça allait pas trop vers ça, vers une espèce de patriarche années 70. Les gens qui ont fait et les costumes et le maquillage, c'était vraiment des gens qui sont devenus des personnalités dans la mode, disons. Donc c'était vraiment des gens qui étaient très inventifs, quoi. Ce goût du travestissement, il l'avait. Et donc, du coup, plus ça fabriquait une bizarrerie, et plus il était content, quoi.
C'est dingue. T'es tout jeune. Mais je suis Akko.
Vous êtes quoi?
Akko. Mais non, tu peux pas comprendre. Je t'offre un verre?
Oui.
Ah oui, si, allez, viens. Viens, on va prendre un verre. Viens.
Il y a un bar là-bas, sur le toit. Par là.
Ah ouais, assieds-toi, assieds-toi.
Ça sera ?
Deux bières.
La Heineken, Kronenbourg.
2,16. C'est fou. C'est drôle, hein.
Attendez, je crois qu'il y a une erreur, parce que moi, je viens de chez les Vidal, là, au deuxième. Je viens du réveillon de Clotilde et de Philippe.
Oui, oui, mais non, non. Ah non, le plastique.
Non, non, non. Attendez, monsieur.
Les choses dans l'ordre.
Monsieur, non, non.
D'abord, les photos. Regarde. Celle-là.
C'est qui ?
Bah, c'est toi. Là, c'est Lucie. Elle avait une vingtaine d'années, là, non ?
Hein ? T'as vu, là ?
Comment vous avez vu ça ? Non, continue, continue. Oui. C'est ton fils. Oui, attends, il y en a une, tu vois dessus, non ? Oh merde, papa.
Il y a plein de gens où on leur dit de faire ça, et puis il faut vraiment avoir une carrière, disons, parce que sinon, devant un jeune réalisateur, en tout cas, on ne se plie pas à ses demandes.
Cédric Clapiche, réalisateur.
Là, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que moi, d'une part, j'étais pas très vieux, et quand je lui demandais des choses, il les faisait, quoi. Et ce qui était fou, parce que j'avais dit cette phrase à l'époque, j'avais dit c'est un des rares acteurs qui fait ce qu'on lui demande. Et parce qu'en général, avec plein d'acteurs, on discute. Je me rappelle, je crois que j'avais déjà travaillé avec Lucchini, j'avais déjà travaillé avec, plus tard, en tout cas j'ai travaillé avec Juliette Binoche. Faut beaucoup parler, beaucoup parlementer, obtenir des trucs. Et d'ailleurs, enfin moi j'adore ça parce que c'est justement le résultat de cet échange qui fait qu'on va loin dans la... Là, Jean-Paul, ce qui était génial, c'est qu'il ne proposait rien. C'est-à-dire qu'il ne faisait que attendre ce que je lui demandais, et il voulait aller uniquement à l'endroit où moi je voulais l'amener. Et avec absolument aucune réticence et aucun a priori. C'est-à-dire que si je lui demande un truc super étrange qu'il n'a jamais fait, il y va, et puis après il me dit, bah, ça je ne l'avais jamais fait. Mais il ne me le dira jamais avant. Et là, notamment, la première scène qu'il joue avec Romain Duris, où il se prend une baffe de Romain Duris, il lui a dit après coup, jamais un jeune homme m'a mis une baffe dans un film. Et donc, il a eu le tact de le dire à Romain Duris après coup, parce que Romain était terrorisé de le faire. Oui. Et donc, voilà, c'était quelqu'un qui était prêt à tout, quoi. Quand je dis prêt à tout, c'est que vraiment, au niveau des dialogues, là, plus c'est étrange et même moins il comprend, plus ça l'amuse, quoi. C'est-à-dire que ça va assez loin dans la tentative, quoi. Et en plus, c'était vraiment, peut-être, c'est un film assez marquant, parce que c'est un des premiers films en France avec des effets digitaux. Mmh. Et donc, le fait de mélanger Paris avec des dunes de sable, le fait de faire disparaître Belmondo au fur et à mesure, c'était des choses... Là, c'est la première fois qu'il tourne sur des fonds verts. Donc, nous, on découvrait ces techniques-là, et lui encore plus, parce qu'il savait même pas à quoi ça servait. Et donc, quand moi, je lui dis, on est devant un énorme fond vert, et que je lui dis, là, il y a des immeubles haussmanniens de chaque côté alors qu'on est dans le désert, il me dit ok. Mais c'est vrai qu'il faut y croire, c'est-à-dire que quand on sait pas que cette technique existe et que ça va rendre réellement bien, quoi, quand il lève la tête et que lui il voit un bout de studio et que moi je lui dis c'est le toit d'un immeuble, voilà, il faut jouer avec ça, donc que ça il s'y prête complètement, quoi.
Quand en 1987 Belmondo renoue avec le théâtre, il renforce l'idée qu'il est avant tout de ce côté-là du spectacle. Avant le cinéma, il y avait eu les planches, comme un retour aux sources, à celle du prince charmant de la tournée dans les hôpitaux parisiens, souvenez-vous. Ce sera donc pour jouer Kean d'Alexandre Dumas dans l'adaptation de Jean-Paul Sartre et une mise en scène de Robert Hossein. Soit une pièce sur un acteur qui ne parvient pas à être naturel et ne peut s'empêcher de jouer un rôle. Écrit à l'origine par Sartre, pour Pierre Brasseur, le rôle va également comme un gant à Belmondo, comme il s'en expliquait au micro de Radio-Canada en 2000.
Quand j'ai joué Kean, vous savez, au théâtre, on m'a rentré au théâtre après 28 ans, tout le monde m'a dit que c'était pas pour moi, que j'avais tort de jouer ça, que c'était une folie. Mais moi, je sentais en moi que j'avais envie de le jouer et que je devais jouer ça. Et bon, mais ça a été un succès, une réussite. J'ai souvent suivi aussi mon instinct, ce que je sentais moi, où des gens, des fois, m'ont dit tu devrais faire ça, j'en avais pas envie, je ne le faisais pas. C'est en ça aussi, si vous voulez, que j'ai manière de diriger ma carrière, si vous voulez, c'est pas d'écouter que moi, parce que ça serait dire ah, je suis monsieur qui sait tout. Mais l'instinct est une autre chose, hein, que de on sent façon, vous lisez une pièce et vous dites, ah, ce rôle, j'ai envie de le vivre. Et même si on vous dit, c'est pas pour vous, vous y allez quand même.
Et dans plusieurs répliques dans Keen, on a l'impression, effectivement, que c'est fait pour vous, que ça vous parle.
Oui, mais c'est ça, vous avez raison. Quand j'ai fait Keen, justement, j'ai lu cette pièce, et c'est drôle, vous savez, je l'ai lu ici à Montréal.
C'est vrai.
je l'ai lu ici, et je me suis dit, il faut que je joue ça, parce qu'il y avait des répliques que j'ai l'impression, comme vous dites, alors Dieu sait si elle n'avait pas été écrite pour moi. Mais je me disais, c'est moi, il faut que je joue ça. Et quand je suis rentré à Paris, et j'ai dit que j'allais jouer ça, le directeur de théâtre me disait, non, on me proposait d'autres pièces, et ça. Et je dis, non, je veux jouer ça, je le sens. C'est dans ça que je voulais dire, c'est l'instinct, c'est de sentir que ça vous touche tout de suite. Et c'est pas du tout Monsieur Je Sais Tout.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada. La Belle Époque par Laurent Delmas.
Le personnage de Keen, s'écartant de la comédie chère à Belmondo, montre que ce goût pour le travestissement a pu toucher d'autres genres, d'autres registres. Certes, les voyous et les escrocs incarnés par Belmondo sont souvent des personnages hauts en couleur, qui parlent le haut-diard et roulent en voiture de sport dans d'improbables costumes criards. Mais il eut aussi d'autres rôles, d'autres voyous de haut vol, mais plus sombres, plus mélancoliques, sous le vernis flamboyant de la carambole et de la cambriole. Au premier rang d'entre eux, peut-être, on trouve Alexandre Stavisky, alias Monsieur Alexandre, alias Jean-Paul Belmondo, donc, dans le rôle de cet escroc de génie qui exista bel et bien dans la France des années 30. Écrit par Georges Champrin, le scénario de Stavisky, réalisé en 1974 par Alain Resnais, développe les multiples facettes d'une fripouille sympathique. Belmondo, ici, ne surjoue plus. La séduction opère, mais débarrassée de toute intention comique ou anecdotique. À la sortie du film, Alain Resnais s'en expliquait.
Je n'ai pas personnellement connu Stavisky, mais je pense qu'il était tout de même très différent.
Oui, moi je le pense aussi. Mais alors là, on va un petit peu aborder la notion du film historique et du film dossier. Comme je ne crois pas beaucoup, enfin, ou en tout cas comme je ne suis pas satisfait par les pièces de théâtre, notamment, qui reprennent simplement le texte d'un procès, par exemple, et qui le mettent dans la bouche des comédiens, et que je le suis beaucoup plus par les films de Sacha Guitry, par exemple, ou perpétuellement, en effet, quand on nous montre Fernand Gravet dans Molière, on ne sait pas nous faire croire qu'il est Molière. On sait très bien que c'est Fernand Gravet.
C'est une interprétation de Molière, bien sûr.
Voilà, et on sait que ça va être un petit peu dans le goût de l'autre. Il est vrai que je me suis peut-être un peu inspiré, en effet, de la technique Guitry, là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire croire au public que vous êtes devant autre chose que devant un film. Donc Belmondo, ne ressemblant pas à Stavisky physiquement, allait peut-être même dans le sens de ce que je cherchais, c'est-à-dire une forme d'anti-illusionnisme. Le problème pour moi, c'était de trouver l'équivalent de ce qui avait l'air d'être le charme et le magnétisme de Stavisky. Eh bien, je reconnais qu'après avoir compulsé très soigneusement toutes les listes de comédiens que j'avais sous la main, y compris des comédiens très peu connus, ça n'a pas joué du tout à l'origine en tout cas, il s'est trouvé que Belmondo me paraissait avoir le total le plus élevé quant au mouvement, au charme que je pouvais imaginer à un personnage imitant l'idée qu'on peut avoir de Stavisky. Voilà, c'est là le... Donc oui, en effet, il n'y a pas d'identification, il y a toujours l'idée de...
Et il y a indéniablement ce côté fascinateur vers
voilà,
le public.
C'est ça,
Belmondo, il n'y a pas de doute.
Magnifique.
Ce qu'on appelle parfois au théâtre la présence. Enfin, voilà. Il a un pouvoir de fascination sur le public. Il ne me semble pas tout à fait que ça soit la fascination stavisquienne, si
non,
on peut dire.
Non,
mais
c'est l'acteur qui a le plus de fascination actuellement en France.
Vous savez ce que disait mon père ?
J'imagine.
Faut pas te faire remarquer, Sacha. Ne sois pas le premier de la classe, tu ferais des jaloux. Sois pas le dernier non plus, on te méprisera. Une honnête moyenne, fais-toi oublier, Sacha.
Mais voilà, on ne nous oublie pas. Vous venez d'où ?
De Russie. J'aimerais tellement que vous soyez heureuse. 30 secondes pour arriver jusqu'à la rue. 30 secondes pour vous offrir le bonheur, c'est court. Parlons même pas du plaisir. Pour le plaisir, il faut toute une vie.
Je croyais que c'était le contraire.
Oh, du n'importe quoi à ce sujet. Mais le bonheur, c'est l'instant même. Un reflet de soleil sur de l'eau. Dans le meilleur des cas, une longue suite d'instants. Le plaisir, par contre, demande de la réflexion. Faut du temps, des loisirs, de l'invention. C'est une affaire de riche, ce plaisir.
Vous êtes quoi, ici?
Tout. Tout est à moi, c'est mon empire. Je peux vous offrir Paris.
Merci, je n'y tiens pas. J'aime bien le bonheur.
Avant cet escroc mondain, il eut, il est vrai, un autre rôle en costume d'époque. En 1967, Louis Malle réalise Le Voleur et Belmondo en incarne le personnage principal, Georges Randall, délinquant rebelle, sombre et mélancolique. Écrit par le cinéaste avec Jean-Claude Carrière, le film est l'adaptation du roman de Georges Darrien et se déroule en 1890. À Paris, comme à Bruxelles, le voleur exerce sans état d'âme son métier. Comme dans Stavisky, quelques années plus tard, Belmondo se glisse dans ses habits en oubliant le cirque et pour rester au plus près de destins fondamentalement dramatiques. Refusant tout pittoresque, Louis Malle repousse la figure du gentleman cambrioleur et instaure une atmosphère crépusculaire.
Enfin, j'y pense depuis déjà longtemps, j'y pense depuis 2 ans, à adapter Le Voleur, le roman de Darrien. Mais j'ai beaucoup hésité, et j'avais commencé à y travailler avec Jean-Claude Carrière et puis on s'était arrêté parce que ça nous avait paru une entreprise impossible. Et on s'y est remis seulement au mois de mars cette année, on s'est décidé à le faire et à le faire aussi rapidement que possible, si vous voulez. Et je ne l'ai fait en fait que parce que finalement c'est en rencontrant Belmondo, en le connaissant, que tout d'un coup ça m'a intéressé. C'est uniquement en fonction de, si vous voulez, de Belmondo que je me suis décidé à le faire. Sinon, je ne l'aurais pas fait avec...
Belmondo, c'est le parfait voleur.
J'en sais rien. Seulement pour moi, il correspond à l'idée que je me fais du voleur. Et d'un autre côté, il faut décaler le personnage de Belmondo, ce qu'il joue habituellement, pour qu'il devienne le voleur. Et c'est très très intéressant. Pour moi, ça a enrichi le personnage du voleur, en lui enlevant tout le côté Arsène Lupin qu'il aurait pu avoir facilement. Et s'il avait le moindre côté Arsène Lupin, ce film, pour moi, il serait complètement raté.
Monsieur Randall, par exemple... On peut le dire, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Permettez.
Je vous en prie.
Vous allez à Bruxelles?
Oui.
Naturellement. Vous allez placer votre héritage. La Belgique est un choix judicieux. Pays stable, de grande valeur morale, dynamique. L'industrie belge est en plein essor.
Excusez si j'interviens dans la brute, mais j'entends votre colloque et j'ai cru deviner que monsieur...
Dumoulin. Fernand Dumoulin.
Enchanté. Van der Busch, Émile, industriel. Je suis belge. Vous cherchez si j'ai bonne oreille à faire un bon petit placement en Belgique?
Moi?
Savez-vous que l'industrie chimique est une valeur sûre? Je parle en connaissance de cause. Ma fabrique est dans la teinture. Oui, oui, je fais les colorants. Ça est une des plus grosses du pays, vous savez. Que faut-il pour vous convaincre? Nous entrons dans le monde de la couleur. Nous avons l'univers pour marcher.
Justement, on offre la demande. Vous avez besoin de plus en plus d'ouvriers. Ils réclament des augmentations de salaire.
Ah, permettez. Ils les réclament, mais ils ne les obtiennent pas. Les bénéfices augmentent d'abord, les salaires ensuite. Loi économique, messieurs.
Parce que les chiffres comme les faits sont têtus, il faut se rendre à l'évidence. Quand le frégoli Belmondo abandonne la veine comique ou parodique, quand le clown se fait sinon triste, du moins grave, le public le boude en comparaison d'autres films. Avec à l'époque seulement 1 million de spectateurs chacun, Le Voleur, puis Stavisky, arrivent en bas du tableau du box-office de l'acteur. L'Abîme ne fait pas le succès. Plus précisément, il faut que l'habit soit paré des lumières de la scène. Il faut que le travestissement fasse d'abord et avant tout rire et sourire. Le belmondisme, s'il existe, est à ce prix.
On a parlé du belmondisme en en faisant un mythe. Vous croyez au mythe Belmondo?
Non, justement, je ne crois pas du tout au belmondisme. Ça, c'est des phrases qu'ont fait les journalistes. Je crois que, justement, c'était le personnage que je jouais dans À bout de souffle qui a marqué ça, effectivement... beaucoup de jeunes, et comme j'étais à fond dans ce rôle, ça a marqué les gens. Et justement, j'ai eu la chance, et en même temps, parce que j'ai refusé d'autres films, de ne pas rester dans du Belmondo, c'est-à-dire de jouer toujours à bout de souffle.
et pouvoir faire derrière Moderato Cantabile, pouvoir jouer Léon Morin-Prêtre, des rôles totalement différents.
D'un bout de souffle à Léon Morin-Prêtre, il y a un chemin parcouru. Vous l'avez suivi consciemment ou c'est le hasard des productions ?
Enfin, le hasard joue toujours un rôle, évidemment, dans une carrière d'acteur, mais enfin, je l'ai suivi consciemment, parce que j'ai pas voulu... justement, j'ai refusé d'être un mythe, c'est-à-dire un personnage, par exemple, comme un bout de souffle, uniquement, et j'aurais pu, je crois, faire ça un bout de temps, et certainement gagner de l'argent avec ça, mais j'avais envie d'être acteur et comédien, donc j'ai cherché des rôles totalement à l'opposé de celui-là. Mais je crois que pour un acteur, le principal, c'est de... d'essayer de tout jouer.
Laissons à Cédric Lapiche le mot de la fin provisoire, soit une belle approche de la dualité selon Belmondo, toujours entre deux visages, deux facettes, deux caractères, une façon de concilier les contraires.
C'est pour ça que je parle de ce Guignolo sophistiqué. Il a toujours gardé quelque chose d'assez, je dirais pas intellectuel, mais il a un côté intuitif, il a une intelligence de l'intuition. C'est quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un qui a toujours lu et qui aime la littérature, qui aime le théâtre, qui a eu une éducation au conservatoire avec un côté, voilà, éducation classique, on va dire. Et c'est quelqu'un qui aime faire le con, quoi. Il aime faire le guignolo, il aime se déguiser, il aime faire des blagues nulles, il a un côté potache. Et d'ailleurs, c'était super mignon parce que à sa mort, Victor Belmondo, donc son petit-fils, a fait un discours où il parlait de comment il faisait ça dans la famille. C'est-à-dire qu'il faisait rire les petits-enfants et il avait ce truc, c'était pas juste sur scène, quoi, c'était une façon de vivre. Moi, j'aime bien ça chez lui, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, comment il a le mélange entre l'intelligence et la connerie, quoi. Et c'est pas deux carrières, c'est pas au début il est intelligent et après il devient plus con. Il a toujours été con. Quand je dis ce mot con, c'est un terme noble pour moi. Les gens qui se font des conneries, qui déconnent, c'est pas du tout péjoratif. C'est justement très aristocratique, quoi. Et donc lui, il avait ça. Et donc quand il travaille avec Godard, il est pas plus intelligent, plus intellectuel que quand il fait le guignolo. Mais je trouve que la carrière de Belmondo, elle a toujours été sur ce double versant d'être dans la fragilité de la chose intelligente qui côtoie la chose ridicule, disons.
C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec Vincent Désière aujourd'hui. Ce sont des professionnels et non des guignolos. Prochain épisode, Bébel et Elle.